Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, il est 18h sur Radio Campus, bienvenue à bord du Pédalo. Au programme de cette émission, on parle antispécisme avec un tout nouveau collectif angevin qui vient de se créer, son nom Bec et Ongle, un premier événement autour de la question « Sommes-nous spécistes ?» est d'ailleurs organisé dimanche. On en parle avec deux des membres, Yakari et Luna, et puis également sur la mobilisation d'APF France Handicap, c'était jeudi dernier avant devant le tribunal d'Angers. La raison, un litige face à Rigaud à qui il reproche de ne rien faire pour rendre ses arrêts de bus accessibles. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du mardi 30 septembre, alors ajustez votre jet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Jeudi matin, ils étaient une dizaine de bénévoles de l'APF France Handicap à attendre devant le tribunal, pancarte contre le manque d'accessibilité à la main. La raison de leur présence, un litige qui les oppose à Rigaud. Selon eux, la société de transport ne respecte pas sa promesse d'un réseau 100% accessible. Un référé a donc été déposé. Toutes et tous attendent patiemment la décision du juge. Catherine Frémy-Lefeuvre, représentante adjointe du Maine-et-Loire, m'a résumé la situation.
Sur tous les supports de communication, il est précisé que 100% des lignes sont accessibles. Et notre représentant départemental actuel, monsieur Philippe Lescurieux, a fait un immense travail de terrain il y a quelques années. Et on a pu leur prouver documents à l'appui. Monsieur Lescurieux a en effet pris chaque ligne avec toute l'intégralité des arrêts de bus pour chaque ligne, photo à l'appui pour montrer quels étaient les arrêts accessibles et quels étaient ceux qui ne l'étaient pas. Et quand l'intégralité des lignes ont été prises en compte au niveau urbain, il s'est avéré qu'il y a environ seulement 50% des arrêts de bus qui sont accessibles pour l'ensemble de toutes les lignes urbaines. Et alors les lignes suburbaines, alors là, c'est seulement 10%.
Et face à ces problématiques, les revendications d'APF France Handicap sont claires.
On a répété à plusieurs reprises notre besoin de rencontrer bien les opérateurs pour voir avec eux quels pouvaient être les points d'amélioration. Et surtout, leur demander un changement dans leur communication pour qu'ils rectifient cette communication. Parce que nous, on part du principe que non, la formation est mensongère vis-à-vis du grand public, notamment. Alors, on nous répondait, oui, mais de toute façon, vous les Angevins, vous connaissez bien les arrêts, vous savez. Mais on a dit, mais il n'y a pas que les Angevins qui peuvent potentiellement prendre les bus. Donc nous, vraiment, on vous demande expressément de rectifier le tir en termes de communication. Et on n'a jamais obtenu gain de cause. Donc on a sollicité notre siège au niveau de l'association en disant, écoutez, voilà, nous, en tant que représentation départementale, on n'arrive pas à obtenir gain de cause. Et notre association, avec les juristes et les avocats, ça justifie une démarche auprès de la justice pour qu'on puisse obtenir, comme tout citoyen, la possibilité de se déplacer sans être entravé, dans de bonnes conditions.
Et malgré ce fait accompli, Rigaud tente toujours de se justifier.
J'allais dire l'excuse, oui, on peut dire ça, que nous oppose la société de transport quand on leur signale que certains arrêts ne sont pas accessibles. Ils nous disent, mais la ville d'Angers, c'est une ville historique, Il y a des trottoirs qui ne seront jamais assez larges. Il y a une déclivité naturelle. Par exemple, ils prennent vraiment la rue de Larro. On sait bien que cette rue, elle est particulièrement... ça dépend dans quel sens on la prend. Donc, nous, on dit qu'il n'y a pas que la ville d'Angers. Il y a d'autres villes. Il y a des endroits où l'accessibilité, elle est de meilleure condition, quoi.
Et si tout part d'une communication d'Irigo jugée mensongère, le problème de fond reste avant tout les difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite dans les transports en commun, comme pour Victor.
C'est assez délicat parce que déjà, moi, la première difficulté que je rencontre, c'est qu'ils ne nous attendent pas forcément qu'on soit assis pour démarrer. Donc des fois, on se casse la tronche, littéralement. Et c'est surtout que moi, j'ai besoin de place pour m'asseoir. Et il y a très peu de gens qui laissent s'asseoir quand il n'y a pas beaucoup de place. Donc ça m'arrive souvent de faire les trajets debout comme ça, en essayant de me tenir à ce que je peux. Et c'est du coup assez pénible. C'est pour ça que je prends moins le bus maintenant, parce que je préfère... C'est moins dangereux d'y aller à pied que de prendre le bus.
Des problèmes qui peuvent pourtant être solutionnés. Victor a quelques idées.
Ça pourrait ressembler à le chauffeur qui nous attend que tout le monde soit à bord, parce qu'on n'est pas du bétail, quoi. Et puis surtout, ça serait bien qu'il y ait vraiment des places qui soient réservées uniquement aux personnes dans le besoin et pas que ce soit à chaque fois tout le monde qui peut y aller, parce que on n'a pas tous une aisance orale qui permet de dire « Oh, est-ce que vous pouvez me laisser la place ?» Moi, je sais que j'arrive pas encore à me dire « Oh, laissez-moi la place. » Donc, c'est contraignant, quoi. Il y a des choses qui devraient être faites de base. Et plus de sensibilisation, en tout cas, pour les chauffeurs. Si les chauffeurs sont sensibilisés, je pense que déjà, ils ont plus de poids pour parler aux gens.
En attendant que des solutions soient mises en place, certaines personnes continuent de vivre des mésaventures, comme nous le raconte Thomas.
Quand je monte dans le bus, je monte au milieu. Et quand, en fait, on ne peut pas valider les cartes de bus parce qu'il n'y a pas de validateur à notre place. Donc l'autre jour, j'ai pris une amende parce qu'en fait, j'ai pas validé ma carte parce que je ne peux pas passer entre les sièges pour aller à l'avant du bus validé. Donc le contrôleur m'a mis une amende. Et du coup, c'était 90 et si je contestais, c'était 135. Donc je suis un peu en colère après Irigo. Et est-ce que ils m'ont dit qu'ils allaient faire remonter, mais je vois que ça ne bouge pas. Donc je suis un peu en colère après Irigo. Par contre, dans les trams, on peut valider partout. Il n'y a pas de problème, c'est accessible. Donc là, par contre, j'avoue que j'ai pas d'excuses.
Une mésaventure qui étonne d'ailleurs fortement Adeline.
J'ai l'habitude de prendre le bus très régulièrement. Je me fais contrôler et les contrôleurs ne me disent jamais rien. Donc je n'ai pas. Ils me disent tant que votre titre, votre abonnement est à jour, vous n'avez pas validé. Donc pourquoi Thomas se fait mettre une amende et pas moi? C'est à la tête du client ou... Donc, je pense qu'on va aller voir Irigo là pour aller voir ça là. C'est pas normal, quoi.
Et quelques minutes plus tard, Marine Delafoy, chargée de communication, et Inès Lebancet, la directrice territoriale, sortent du tribunal. Voilà le verdict.
Le juge a décidé de rendre obligatoire une médiation. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une rencontre obligatoire ou plusieurs avec Irigo, avec un juge qui sera présent pour que les engagements, les décisions qu'on prenne soient tenues. Donc ça, c'est prévu le 23 octobre. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y aura une audience le 18 décembre. Et là, ça sera soit pour acter, dans l'idéal, si on arrive à se mettre d'accord avec Irigo et faire respecter ce qu'on veut, ça veut dire le respect de la loi pour l'accessibilité des arrêts de bus. Soit on n'arrive pas à se mettre d'accord et donc là on devra plaider encore le 18 décembre, pour défendre ce qu'on veut, donc l'accessibilité des arrêts de bus. On est plutôt content parce que là ça veut dire qu'il y aura une tierce personne qui a quand même un pouvoir de médiation assez important, qui sera là pour faire en sorte que les engagements qu'on prendra avait, enfin que les engagements qu'Irigo prendra seront tenus. Donc on attend vraiment que ça puisse faire avancer les choses pour l'accessibilité des transports pour les personnes en situation de handicap.
Inès Lebancet, directrice territoriale d'APF France Handicap. APF France Handicap plutôt satisfait donc du verdict, même si ça n'est que le début, pour espérer pouvoir faire bouger les lignes.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du pédalo. Un grand merci à celles et ceux qui ont témoigné à mon micro. Place maintenant aux invités autour d'un sujet, l'antispécisme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un tout nouveau collectif vient de voir le jour. Son nom, Bec et Ongles. Son objectif, lutter contre toute forme d'aliénation, d'exploitation et de domination des humains contre les animaux, et qui milite aussi pour un antispécisme intersectionnel et un véganisme populaire résolument antifasciste. Un premier événement public est d'ailleurs prévu ce dimanche. Pour en parler, je reçoit Yakari et Luna. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Bonjour, bonjour.
Alors vous êtes donc un collectif qui vient tout juste de se former. Ça part d'où cette volonté de se réunir en collectif antispéciste à Angers ?
Donc c'est vrai qu'il existe déjà des associations, d'autres collectifs antispécistes à l'échelle nationale et locale. On peut penser à LD114 par exemple, mais nous là, les membres qui composent Bec et Ongles, c'était des personnes déjà qui sont dans différents collectifs militants angevins et qui sont retrouvées autour de ces questions-là parce qu'on trouvait que les questions autour de l'antispécisme n'étaient pas présentes et la lutte antispéciste n'était pas présente dans nos milieux militants.
Et c'est né comment ce collectif ? Avec qui ?
Et ben avec des membres de différents collectifs écolo et plutôt de la gauche radicale, si on peut dire. Notamment des membres de collectifs qui font du ravitaillement alimentaire ou qui militent pour la cause, pour l'écologie. J'ose pas trop dire de noms de collectifs en fait, mais bon, peut-être que je sais pas si on peut dire les noms ou pas. T'en penses quoi ?
On a déjà fait un résumé, on va dire.
Oui. Oui. Qu'on comprenne au moins déjà voilà. De qui ça vient. Pourquoi ce nom Bec et Ongles que j'ai eu du mal à prononcer tout à l'heure deux fois, pourquoi ce choix ?
C'était un sacré parcours de trouver un nom pour ce collectif-là. On est passé par tout un tas d'étapes de discussion, c'était hyper intéressant. Et finalement, donc c'est un de nos copains qui a trouvé ça. Parce que on trouvait, donc c'est une expression Bec et Ongles qui est assez commune, qui est souvent utilisée. Il y a d'ailleurs plein d'autres collectifs qui s'appellent comme ça. Mais on trouvait il y avait une tonalité assez, non pas agressive, mais un peu piquante, qui attaque Bec et Ongles. Voilà, on comprenait de quoi il s'agissait. Il y a plein d'animaux qui ont des becs, il y a plein d'animaux qui ont des ongles, y compris les humains d'ailleurs. Donc voilà, ça nous semblait bien nous représenter.
Autre aspect de votre identité, c'est aussi le logo. C'est une pieuvre dessinée dans un cercle rouge. Ça représente quoi ?
Bah, c'est vrai que la métaphore aussi de la pieuvre, il y a ces tentacules qui font qu'on est présent un peu, on souhaite être un peu partout. Les animaux sont également, les animaux non humains nous entourent. Et voilà, ça a été différentes étapes également pour choisir ce logo, mais il nous satisfait pleinement. Si tu veux compléter
Sur les couleurs, tu parlais d'un cercle rouge. C'est vrai qu'il y a ce rouge et ce vert un peu émeraude de la pieuvre. C'est deux couleurs qui nous plaisaient beaucoup, voilà, qui font référence aussi à d'autres luttes. Et ça nous paraissait intéressant de témoigner de ça dans ce logo.
Alors je le disais tout à l'heure, vous dites militer contre toute forme d'aliénation, d'exploitation et de domination des humains contre les animaux. Et vous ajoutez vouloir militer pour un antispécisme qui est intersectionnel et pour un véganisme qui est populaire et résolument antifasciste. Pourquoi cette nuance, elle est importante ?
Parce qu'en effet, nous, la question politique était importante. On peut se dire vegan, donc ou même adapter une alimentation végétalienne sans intégrer pleinement dans sa vie les questions antispécistes. Et donc pour nous, c'était intéressant. L'aspect populaire également, c'est qu'on souhaite pas que ça soit un véganisme bourgeois, comme on peut souvent citer, ou que dans les milieux populaires ou dans les campagnes, on dit, on cite souvent ces véganes citadins et bourgeois. On a envie plutôt d'émanciper autour de la question animale un peu partout et rendre accessible, si on parle de l'alimentation. Et également, l'aspect antifasciste nous était aussi important parce qu'on peut être végane et fasciste.
Et il y a d'ailleurs des collectifs, dont un qui s'est installé à Angers dernièrement, l'année dernière, qui s'appelle le Réseau Pythagore, qui est un collectif qui se dit animaliste et non pas antispéciste. D'ailleurs, ils font une distinction sur ça. Mais eux, ils sont résolument contre l'intersectionnalité. Et d'ailleurs, ils considèrent que toutes les luttes intersectionnelles viennent gangréner la lutte animaliste. Et eux, ils se veulent le rempart vraiment contre eux. Donc, c'est ce qu'ils disent. Donc, eux, en fait, ce sont toutes les personnes qui se revendiquent de l'intersectionnalité et les animaux. Donc, voilà. Donc, on voulait vraiment ancrer ça profondément dès le début dans notre réseau. On est antifasciste et on tient à le dire.
Et ça se manifeste comment, cette intersectionnalité dans le mouvement antispéciste?
Dans le mouvement antispéciste, en fait, la première chose, c'est de bien comprendre que l'antispécisme, il s'intègre, pour nous en tout cas, dans tout un tas d'autres luttes. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes, il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'antispécisme, qui vont se retrouver dans d'autres types de luttes, en fait. Ça c'est au niveau des méthodes, mais surtout au niveau de l'oppression systémique qui est le spécisme, on peut retrouver des parallèles sur les oppressions sexistes ou les oppressions racistes ou même les oppressions validistes. C'est les mêmes processus qu'on va retrouver entre des groupes dominants et des groupes dominés. Et nous, on a vraiment en tête qu'on lutte pour la... On veut aucune domination, aucune oppression sur quelconque animal. Et on inclut en fait les humains là-dedans. Donc évidemment, on a en tête, et ça vient de notre parcours politique et voilà, historiquement, tous les membres du collectif viennent d'autres collectifs politiques et militants qui luttaient contre le fascisme ou sur des réseaux écolos. Et on garde ça vraiment en tête. On lutte pas que pour les animaux, les chiens, le chat à maman et tout ça. Non, nous, on lutte contre l'oppression de tous les êtres vivants, ou de tous les animaux en tout cas, qui soient, peu importe leur espèce. Et donc ça inclut aussi les humains. Et dans les humains, en fait, il y a déjà plein de luttes qu'on partage déjà.
Est-ce qu'aujourd'hui, de trop nombreux collectifs antispécistes ne cochent pas assez cette case de l'intersectionnalité? Et à l'inverse, est-ce que des collectifs antifascistes et intersectionnels ne prennent pas assez en compte la question de l'exploitation animale pour vous?
C'est une bonne question, là. Ce qui me vient en tête, d'un point de vue à l'échelle internationale, qui est assez connu, il y a l'ONG Sea Shepherd, qui défend notamment les animaux marins. Il y a eu un peu des scandales récemment, notamment même lors du dernier festival. La fête de l'Huma, où il était invité et sa présence a dérangé, et ce qui n'est pas étonnant. Du coup, aux représentants, c'est l'aspect en effet décolonial et intersectionnel que lui n'a pas, notamment sur cette distinction entre des personnes blanches et des personnes noires, entre cette réduction de la population. Donc, il y a des grandes ONG qui affirment pas ces valeurs politiques antifascistes, notamment. Et la deuxième question...
Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des groupes qui se revendiquent intersectionnels et antifascistes qui ne prennent pas assez en compte la question de l'antispécisme?
Selon nous, oui. C'est pour ça qu'on a voulu créer. Après aussi, il y a également... c'est difficile des fois de se dédoubler ou d'aller dans plein de collectifs, mais nous, la question de prendre en compte toutes les dominations animales sont importantes.
Juste pour compléter ça, on se rend compte que dans les milieux militants, quand même, il y a une part de plus en plus importante de personnes qui sont végétariennes, qui prennent pas du tout de plaisir à chasser ou à tuer des animaux. Néanmoins, le passage à devenir végétalien ou végane et à vraiment se revendiquer antispéciste, il est très très rarement franchi. Et on trouve que c'est très dommage et c'est une aberration en fait que dans nos milieux qui se disent progressistes, on bloque vraiment encore sur l'antispécisme. Et c'est vraiment un des objectifs fondamentaux du collectif de Bec et Ongles, de diffuser les idées de l'antispécisme dans nos milieux.
On continue de parler d'antispécisme avec vous deux, mais avant on va faire une pause musicale. On écoute Brilho, c'est un groupe de soul funk qui incarne le boogie brésilien. Ça s'appelle Destrava Maria et c'est sorti en 1983. A tout de suite dans le pédalo. C'était Destrava Maria de Brilio, vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo et aujourd'hui on parle antispécisme avec le collectif Bec et Ongles. Alors la création de votre collectif s'accompagne de la rédaction d'un manifeste de 12 pages et un mot bien sûr est au cœur de ce manifeste, on en parle depuis tout à l'heure, c'est le mot antispécisme, mais est-ce que vous, dans votre collectif, vous avez une définition précise de ce qu'est l'antispécisme ou alors vous utilisez une définition qui est plus universelle ?
Il y a un paquet de définitions et nous on a essayé de mettre une définition qui nous parlait au sein de ce manifeste-là. Je la connais pas par cœur la définition, notre définition, mais de manière globale, l'antispécisme, il a pour objectif de lutter contre le spécisme et donc pour la fin du spécisme et de l'oppression spéciste. Et donc maintenant il faut définir qu'est-ce que c'est que le spécisme. Et donc le spécisme, c'est une domination systémique, comme on peut parler de racisme, de validisme, de sexisme, qui a pour objet la suprématie humaine sur toutes les autres espèces. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation en fonction des espèces, de tous les individus appartenant à ces espèces-là. Et le fait est que vu que le système il est fait par les humains, en fait, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à prioriser systématiquement les intérêts des humains sur les intérêts de tous les autres animaux. Et donc, peu importe dans quel cadre on va situer, que ce soit la question alimentaire ou la question du divertissement et tout ça, l'intérêt de l'homme passe avant l'intérêt des animaux. Et donc, c'est-à-dire l'intérêt des animaux, donc leur intérêt à vivre correctement, dans de bonnes conditions, à vivre librement, à vivre tout simplement, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est des milliards et des milliards d'animaux qui sont tués tous les ans en France. Et donc, en fait, même leur intérêt à vivre est complètement nié et on renie complètement toute leur capacité d'avoir des existences, avoir une existence subjective, c'est-à-dire à pouvoir avoir conscience de soi, avoir capacité à se souvenir, à se projeter dans l'avenir et tout ça, et à ressentir des choses. Bon, je vais m'arrêter, on pourra en parler des heures, mais...
Même, juste pour compléter, au sein même de ces non-humains, et également, il y a des classements, on porte pas le même intérêt à notre chat ou notre chien... au vu de, comme dans, au tout début de l'émission, du bétail, par exemple.
Et aujourd'hui, à quel point est-ce que, enfin, et même sous quelle forme, est-ce que le spécisme est omniprésent et banalisé dans la société ?
Oui, bah si, tout à fait. Rien que par les expressions, notamment, là c'est un petit teasing, mais lors de notre événement, il y aura un blind test et un quiz également. Et on remarque que toutes les expressions où il y a des animaux, être traité comme du bétail, comme au tout début de l'émission, et bah, voilà, c'est une expression spéciste également. Et que ça soit dans nos divertissements, dans notre façon de nous habiller, de manger trois fois par jour... Il y a de la domination envers les non-humains partout.
Et au-delà de la question de la vie animale, il y a aussi les problématiques écologiques qui rentrent en compte. À quel point est-ce que le spécisme joue un rôle dans la dégradation de notre environnement ?
Bah, le spécisme, il amène principalement à une autre domination qu'on va appeler le carnisme, où là, ça concerne plutôt le régime alimentaire. Et le carnisme, on va dire pour faire simple, ça va être de nous dire qu'on ne peut pas vivre sans manger de produits animaux et principalement qu'on ne peut pas vivre sans manger de viande et qu'il est fondamental de manger de la viande pour être en bonne santé, ce qui est complètement faux. Maintenant, c'est prouvé et approuvé, hein, je veux dire, par l'OMS. On peut être vegan et vivre en très bonne santé, il n'y a aucun problème là-dessus, à tout âge en plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, et donc le lien entre le carnisme, ou en tout cas l'alimentation carnée, donc le fait de manger des produits animaux et l'écologie, c'est que pour produire de la viande, pour produire des produits laitiers, ça consomme énormément de ressources, à commencer par des terres qu'on va déforester pour mettre du bétail. Donc on a tous ces exemples évidemment de gigafermes au Brésil ou aux États-Unis par exemple. C'est des consommations d'eau énormes, c'est des problèmes de résidus aussi... de lisier, tout ça, qui vont finir par exemple sur les plages, et on a l'exemple des algues vertes en Bretagne qui est créée, qui est causée en fait par le lisier des porcheries. Donc voilà, il y a plein d'autres exemples, mais...
Dans vos moyens de lutte contre le spécisme, vous mettez notamment en avant la vulgarisation et le fait de susciter une prise de conscience. Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on arrive à faire changer des mentalités sur quand même des choses qui sont très ancrées dans la société?
Là, on a différents avis. C'est vrai qu'au sein même de ce collectif, on a été bouleversé par la question du spécisme à différentes époques de notre vie. Moi, ça a pu être plus jeune qu'une autre personne, plus tardivement dans sa vie. Et là, aujourd'hui, il y a l'aspect des affects et des émotions qui, selon moi, est une bonne manière d'appréhender ces questions envers notre entourage et nos proches, déjà.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, dans les modes d'action, il y a aussi ce que vous indiquez, c'est un recours à la désobéissance civile. Là, ça va prendre quelle forme ?
Ça peut prendre tout un tas de formes. Pour l'instant, on n'en est pas là. On verra le jour où on veut faire des actions. Mais,
en tout cas, vous le mettez en avant comme un levier possible.
On le met clairement, et on y viendra. On y viendra parce qu'on ne compte pas s'arrêter juste à la sensibilisation. La désobéissance civile, ça peut être des opérations de blocage, ça peut être des opérations de délivrer des animaux, ça peut être de s'en prendre à certains organismes agro-industriels qui sont complètement meurtriers et qui centralisent, on va dire, la mise à mort des animaux ou l'élevage des animaux. Voilà, il y a plein d'exemples, on peut être très imaginatif là-dessus.
Et alors, parmi les autres différentes formes d'action que vous mettez en place, il y a vos différents événements publics. On en parlait un petit peu en début d'émission. Le premier, c'est dimanche à 17h30 au bar associatif L'Échappée Belle. Ça s'intitule « Sommes-nous spécistes ?». Est-ce que le but avec cette question, c'est de remettre en cause collectivement et individuellement notre rapport au monde animal ?
Oui, tout à fait. On a voulu un premier événement assez inclusif et accessible également à des enfants, à un public plus jeune, un public qui connaît pas forcément les questions du spécisme. Du coup, il y aura une projection du film Babe, et également suivi d'un débat. Il y aura un goûter et également un dîner. On va faire des kebabs vegan par un collectif. Et voilà, ça sera un temps pour discuter autour de ces questions et de nos rapports, la hiérarchisation des animaux non humains dans nos vies.
Et on finira par un jeu, blind test et quiz et tout ça, pour celles et ceux qui veulent poursuivre la soirée avec nous après le kebab.
Alors, tu parlais justement de la projection, du film Babe. Pourquoi ce choix ? En quoi est-ce qu'il illustre la problématique qui va être évoquée ce week-end ?
Eh bien, venez voir le film. Non, comme le disait Luna, c'est un film qui est accessible déjà, et vraiment on tenait à ça, qu'absolument tout le monde peut voir et comprendre. Et pour spoiler un petit peu, on a affaire à des animaux qui parlent. Donc en fait, ça rend compréhensible le vécu de ces animaux par la parole. Donc déjà, c'est vraiment un aspect hyper intéressant du film. Et ça remet en cause cette question de la hiérarchisation des animaux selon l'espèce à laquelle ils appartiennent. Et en gros, on nous fait comprendre dans le film que les animaux de ferme, eh ben, en fait, ils sont là parce que des humains les ont mis là, mais en fait, ils ont peut-être envie de faire autre chose. Voilà.
Alors donc, il y a aussi d'autres activités que tu as aussi évoquées tout à l'heure, notamment donc ce fameux blind test. Est-ce qu'il va être thématisé du coup ? Est-ce qu'on imagine ce sera beaucoup de chansons en lien avec l'antispécisme ?
Oui, tout à fait. Bah, également, on vous invite nombreuses ce dimanche. Et oui, il y a beaucoup de chansons également qui parlent des non-humains.
Et justement, oui.
Beaucoup de chansons et beaucoup, il y aura un jeu aussi sur les expressions spécistes, antispécistes, toutes les expressions qui sont en lien avec des animaux, et puis on ira essayer de comprendre est-ce que cette expression-là, elle est spéciste ou pas. Mais bon, ça reste un jeu et on va s'amuser, voilà.
Et quel est le rôle que peut jouer la culture, que ce soit donc le cinéma, la musique, dans la diffusion de ce genre de messages, et notamment peut-être sur le faire auprès d'un grand public ?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'on souhaitait vraiment faire une projection d'un film, mais c'est difficile de trouver un film qui nous paraît antispéciste de A à Z, qui soit accessible. Donc, on a des choses à lui reprocher à ce film, notamment. Donc,
Ce sera l'occasion d'en parler
voilà,
aussi, j'imagine.
Également. Et la culture, si, a totalement sa place, comme dans les questions écologiques, comme dans les questions de sexisme. Elle devrait être là.
Est-ce qu'il y a aussi d'autres événements qui sont prévus ou en projet, en tout cas, à venir ?
Eh bien non, ce n'est que notre premier événement. Après, on va nous reprendre les ateliers thématiques et d'autres animations et jeux au sein du groupe. Voilà, donc ça, ce sera pour les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe. Mais là, pour l'instant, on n'a qu'un événement public de prévu.
En tout cas, l'idée, c'est peut-être d'insuffler
une nouvelle énergie.
Une nouvelle dynamique. Voilà.
Et donc, vous pouvez nous suivre. On a une page Instagram et on va essayer de la rendre active qui s'appelle
Bec et Ongle Asso.
Voilà, avec des tirets.
Bec et Ongle Antispé.
Oui.
Bon, en tout cas, on vous invite à rechercher sur Instagram. Merci beaucoup, Yakari et Luna, d'être venus sur notre plateau. Je rappelle, donc, vous êtes membre du collectif Bec et Ongle qui organise son premier événement public ce dimanche à 17h30 au bar L'Échappée Belle. Bonne soirée à vous.
Merci à toi, salut.
Salut.
Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Arthur, à la technique aujourd'hui. La programmation continue sur le 103FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast. Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.